France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 3 mai, le journal de la rédaction et Valentin Gril. Bonne journée Valentin.
Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. 21 suspects mis en examen dans l'affaire des actions contre les prisons et le personnel pénitentiaire. Deux mineurs et le créateur d'un influent forum en font partie. La presse, plus que jamais sous tension dans le monde, entre exactions et pression économique. Exemple aux États-Unis où la presse locale meurt en silence. Washington qui met la pression sur le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz en critiquant l'ostracisation du parti d'extrême droite, l'AFD. Après un coup de filet d'ampleur passé en début de semaine dans l'affaire des actions contre les prisons et les agents pénitentiaires, 21 suspects ont été présentés hier à des juges d'instruction, dont deux mineurs. Ils ont tous été mis en examen, puis placés pour la plupart en détention provisoire. L'enquête a confirmé la piste des narcotrafiquants à l'origine des attaques et intimidations. L'information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits et tentatives de meurtre en bande organisée. Elle porte sur 17 actions menées à partir du 13 avril. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
Parmi les mises en cause, il y aurait déjà le créateur présumé du premier compte Telegram intitulé DDPF et rédacteur du texte de revendication mettant en cause les conditions carcérales. Ce détenu, incarcéré à la maison d'arrêt du Pontel dans le Vaucluse, est âgé de 23 ans et il est considéré comme un proche de la DZ Mafia, ce groupe criminel marseillais. Trois relais probables des actions violentes, des détenus également inscrits dans la grande criminalité, ont aussi été identifiés, a confirmé la Junalco. Mais l'instruction ne fait que commencer. Il faudra qu'elle mette en exergue avec précision la responsabilité de chacun dans cette affaire où les tâches ont été divisées des donneurs d'ordre aux exécutants en passant par les logisticiens. Les avocats sont particulièrement vigilants, comme Éline Cause.
La dimension publique et politique de ce dossier, elle est écrasante pour la justice, elle est écrasante pour tous les mises en examen. Il y a une instruction qui est en cours et il ne faut pas qu'elle soit altérée par cette émotion publique et par toute cette dimension amplement politique. Donc il faudra qu'on fasse preuve d'une infinie précaution pour mettre en lumière avec précision la responsabilité de chacun individuellement dans ce dossier. Vous avez des responsabilités qui sont très très diverses. Et donc, ce que nous, on peut déplorer en qualité d'avocat de la défense dans ces dossiers, c'est l'absence de considération, au moins au début de l'instruction, de l'individualisation qui est nécessaire.
Les avocats dénoncent en effet des mises en examen automatiques qui reflètent, selon eux, une volonté de faire un exemple plutôt que du droit. Mais ils disent aussi leur soulagement de voir la procédure revenir à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée après que le parquet national antiterroriste se soit dessaisi.
Anne Fauquemberg, et j'ajoute que la procureure de Paris, Laure Bécaud, tiendra une conférence de presse à 11h au tribunal judiciaire de Paris. C'est une sombre première dans l'histoire du classement mondial de la liberté de la presse. L'organisation Reporters sans frontières estime dans son dernier rapport, publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, que la situation devient difficile à l'échelle planétaire. Un jugement inédit. Il y a bien sûr les exactions physiques contre les journalistes, aspect le plus visible des pressions, mais ce sont essentiellement des pressions économique qui explique la détérioration des conditions d'exercice des journalistes. C'est notamment le cas aux États-Unis où de vastes régions deviennent des déserts informationnels. Washington n'occupe plus que la 57e place du classement, un classement menacé par la politique de Donald Trump. À Washington, les précisions de notre correspondante Hélène Chevalier.
En 20 ans, environ 3000 journaux, soit un tiers de la presse locale américaine, ont disparu. Près de 20 millions d'habitants n'ont désormais plus accès à un seul média de proximité, dénonce Caroline Hendry, directrice de la Société des journalistes professionnels.
These news deserts are fertile ground.
Ces déserts d'information sont un terreau fertile pour la désinformation. Les rumeurs et le manque d'informations citoyennes. Tout cela est pourtant essentiel à notre démocratie. Et l'animosité de Donald Trump envers la presse traditionnelle ne risque pas d'améliorer la situation. L'administration déploie des efforts incessants pour réduire au silence et discréditer les médias indépendants. Dernière attaque en date du président, il vient de signer un décret qui ordonne à l'État de supprimer le financement d'NPR et CBS, les radios et télé publiques américaines. Ce sont des financements qui avaient déjà été approuvés, donc c'est vraiment extrêmement inquiétant. Tous les Américains doivent prendre conscience de ce qui se passe. Leurs libertés fondamentales sont attaquées et ils doivent agir. La directrice de la Société des journalistes professionnels encourage ses concitoyens à s'abonner ou à faire des dons à la presse. Elle craint que les nombreuses intimidations, mais aussi les procès intentés par le milliardaire contre des médias nationaux et locaux, n'en poussent certains à la faillite ou à l'autocensure.
Hélène Chevalier, correspondante de France Culture à Washington. On apprend à ce propos cette nuit que la radio en langue étrangère américaine, Radio Free Asia, va licencier 90% de ses salariés, faute de financement public. Elle va cesser d'émettre dans plusieurs langues, dont la langue ouïghour. C'était le seul service d'information indépendant pour cette population chinoise musulmane. Nous reviendrons sur le repli de la liberté de la presse dans le monde dans le journal de 12h30 avec un invité, Thomas Hochmann, professeur de droit à l'Université Paris-Nanterre et auteur cette année du livre « On ne peut plus rien dire, liberté d'expression, le grand détournement ». L'administration Trump s'en prend une nouvelle fois au gouvernement allemand. Selon le vice-président américain J.D. Vance, la décision du renseignement intérieur allemand de classer l'AFD comme extrémiste de droite amène à reconstruire le mur de Berlin, alors qu'il juge le parti comme le plus populaire et le plus représentatif du pays, notamment à l'Est. Explication de cette nouvelle ingérence par Louise Baudet.
À quelques jours de son investiture au poste de chancelier, Friedrich Merz se serait bien passé de cette nouvelle controverse. Acte 1, l'Office de protection de la Constitution allemande désigne hier l'AFD, parti extrémiste de droite dont l'idéologie dévalorise des groupes entiers de la population et porte atteinte à leur dignité humaine. Conséquence, l'AFD pourra plus facilement être surveillée, voire infiltrée. Acte 2, la réaction outre-Atlantique de l'administration Trump, c'était cette nuit, l'Allemagne reconstruit le mur de Berlin fustigé. Le vice-président J.D. Vance, tyrannie déguisée, tonne le chef de la diplomatie Marco Rubio. Nouvelle ingérence dans la vie politique allemande après le soutien affiché de J.D. Vance à l'AFD en février et sa dénonciation du recul de la liberté d'expression en Europe. Acte 3, la réponse du ministre des Affaires étrangères allemand, c'est ça la démocratie, notre histoire nous a appris qu'il faut arrêter l'extrémisme de droite. Référence claire au passé nazi de l'Allemagne en pleine période de commémoration de la libération des camps de la mort il y a 80 ans. Et alors qu'outre-Rhin, plusieurs responsables politiques demandent l'interdiction pure et simple de l'AFD.
Louise Baudet, un mot du temps pour terminer. Plutôt beau ce matin à l'ouest et au sud du pays. Il se gâte dans l'après-midi avec des orages à prévoir. De 15 degrés à Lille à 25 degrés à Bourges, comptez 24 à Strasbourg.